Dernière sommation, c'est aussi ce que disent les policiers avant de réprimer
pas tout le temps
la foule. Des fois, ils le disent pas, mais des fois, ils disent dernière sommation, et c'est là qu'il y a une pluie de lacrymo qui s'abat sur les quelques personnes qui avaient décidé d'exprimer leur avis. Et c'est pourquoi à 19h02 sur la place Satonnet, en direct et en stéréo, on va parler de répression et de, bon, en fait, comment est-ce que, par exemple, la police et la justice essaient de contrecarrer les personnes qui s'organisent pour leur émancipation. Et voilà, on est toujours en direct et vous nous écoutez sur le 102.2 FM.
Et on commence tout de suite avec un sujet dont on a évidemment beaucoup parlé dans les canuts info du lundi, mercredi, vendredi. Et on en reparle encore aujourd'hui parce qu'on pense que c'est important, puisque à l'échelle de la ville, il y a eu un acharnement policiaro-judiciaire, politique, contre des militants et militantes antifascistes autonomes. Et donc on a aujourd'hui une camarade du comité de soutien aux inculpés du 23 septembre. Merci à toi d'être présente.
Merci à vous.
Et du coup, on va commencer donc cette thématique sur la répression de ce milieu antifasciste par des événements qui ont eu lieu en septembre, octobre, particulièrement graves, puisqu'ils ont abouti à l'incarcération de quatre camarades antifascistes. Est-ce que tu peux nous dire déjà à quoi correspond cette date du 23 septembre ? Pourquoi le comité de soutien aux inculpés du 23 septembre ?
Oui, alors déjà, le 21 septembre, sept camarades antifascistes sont interpellés. Deux jours plus tard, il y en a quatre d'entre eux qui sont placés en détention provisoire, alors que les trois autres, ils sont soumis à un strict contrôle judiciaire. Donc c'est dans ce contexte-là que les gens du comité, on s'est réunis, on a commencé à discuter. Donc ce dont quoi on les inculpait, c'était suite à une altercation qui avait eu lieu à la fin du mois d'août, lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. Une altercation avec le groupe néofasciste Civitas. Donc les membres du groupe Civitas sont connus pour leur position ouvertement antisémite qu'ils affichaient sans problème lors de ces manifestations. Et ils prônent notamment un nouveau régime qu'ils appellent le régime du Christ au roi. Donc voilà.
Un vaste programme.
Voilà. Et il faut savoir que les membres du groupe Civitas n'ont pas porté plainte. Donc c'est le parquet qui s'est auto-saisi et qui a mené une enquête entièrement à charge contre les camarades antifascistes. Et par contre, il y a des détails un peu chelous. C'est-à-dire que dans l'enquête, on a appris en lisant le procès-verbal que les policiers étaient entrés en contact avec les membres de Civitas en essayant de les pousser à porter plainte sans pour autant que ces échanges soient plus clarifiés que ça. Donc on sait juste qu'il y a eu un contact entre les deux et c'est tout.
Oui, c'est ça, dans la procédure, on ne sait pas qui sont les policiers qui ont interrogé les personnes de Civitas, on ne sait pas qui sont les personnes de Civitas, on ne connaît aucune identité et aucun des entretiens dans le fond comme dans la forme, donc c'est purement fictif en quelque sorte.
Exactement, c'est une affaire montée de toutes pièces et le procès l'a démontré d'ailleurs. Donc, dans ce contexte-là, le comité est né. Nous avons mené des actions de solidarité donc en récoltant de l'argent, en organisant des soirées de soutien. Nous avons aussi participé à une manifestation le 23 octobre, une manifestation antifasciste où nous avions un cortège du comité de soutien des inculpés du 23 septembre. Un cortège très festif qui a très bien marché, où on était visible. L'affaire a commencé donc à être médiatisée, toujours dans cette idée de médiatiser une affaire qui nous paraissait totalement absurde. On a écrit une tribune où on essayait de justement dénoncer cette justice des deux poids et deux mesures. On ne comprenait pas comment les membres de Civitas n'étaient dérangés d'aucune manière alors que quatre camarades à nous étaient en prison à ce moment-là. Et donc cette tribune a pas mal circulé, elle a eu 119 signatures de professionnels du droit, professeurs, journalistes. Et il a été d'ailleurs cité lors du procès du 4 novembre. Donc le procès, il a eu lieu 6 semaines après l'arrestation parce que c'est dans une procédure très particulière qui s'appelle la comparution immédiate à délai différé.
Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette procédure et pourquoi elle a été utilisée ?
Donc justement, la comparution immédiate à délai différé, c'est comme une comparution immédiate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la refuser. Enfin, pardon, la différence avec la comparution immédiate, c'est qu'on ne peut pas la refuser. Et elle a lieu donc 6 semaines après l'interpellation. Et donc, elle est souvent utilisée, de plus en plus d'ailleurs, puisqu'elle permet justement de mettre des gens en détention provisoire, puisque en attente de procès, à part une demande de remise en liberté, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en attente du procès.
Ok, donc sur un dossier relativement vide, monté en grande partie, on va le voir, de toutes pièces hein, par le parquet et la police, on va le voir notamment lors du procès, il y a quand même 4 personnes qui sont incarcérées et 3, me semble-t-il, qui sont restées jusqu'à 6 semaines en prison. Toutes leurs demandes de liberté, leur DML, leur demande de mise en liberté, ont été refusées. Est-ce que vous savez pourquoi au comité ? Est-ce que vous doutez d'un peu pourquoi ils ont été refusés ces demandes ?
Bah justement, je pense que l'idée, c'était de faire peur, de marquer le coup et que la réponse du comité, justement, c'était de médiatiser le plus possible et de montrer qu'on n'allait pas se laisser faire, qu'on n'allait pas rester isolé. Et que c'est grâce au comité, je pense aussi qu'il y a eu une suite plutôt positive, même si on n'oublie pas que donc les camarades ont été libérés, on va en parler après, mais on n'oublie pas qu'il y a 3 personnes qui sont restées 6 semaines en détention provisoire pour une affaire qui est quasiment entièrement tombée à l'eau.
Alors, on en arrive le jour du procès, le fameux 4 novembre. C'est un procès un peu hors norme. Il va durer 7 heures, ce procès. Alors, évidemment, tu ne vas pas nous raconter en détail les 7 heures, mais qu'est-ce qui est marquant et vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ressortir d'important dans ce procès et qu'est-ce qu'on a appris d'assez scandaleux dans la procédure qui a été mise en place par les policiers et le parquet de Lyon?
Oui, alors je dirais juste qu'une première victoire pour le comité a été marquée donc, le jour du procès parce qu'on avait appelé un rassemblement. On avait choisi d'utiliser le slogan « L'antifascisme, pas un crime » parce que l'idée, c'était justement de normaliser l'antifascisme, de montrer que c'est une affaire qui concerne tous et toutes et qu'être antifasciste est une affaire voilà, qui concerne tout le monde. Donc le 4 novembre, on est arrivé devant le tribunal et il y avait beaucoup de personnes qui soutenaient nos camarades. On avait prévu une journée festive avec des concerts, des slogans, etc. Et la salle à l'intérieur était aussi remplie, c'est-à-dire que les gens ont suivi donc, de près ce procès, comme tu l'as dit, qui a duré 7 heures. Il n'y a pas eu un seul moment où la salle manquait de gens, au contraire. Elle était bien, bien pleine. Et donc, la plaidoirie des avocats de la défense se basait surtout sur une bataille politique. Les avocats de la défense ont énuméré les nombreuses attaques fascistes qui ont lieu à Lyon, souvent filmées. Et par contre, ces attaques n'ont pas de suite. Enfin, il y a une vraie impunité derrière ces agressions. Même lorsqu'il y a des plaintes, les plaintes sont classées sans suite. Et aussi, ce qui a été mis en lumière, c'était le caractère fallacieux de toute cette affaire. Et donc, notamment, ce qu'on utilisait à charge des antifascistes, c'était une vidéo qu'on n'a pas pu voir lors du procès, puisque la vidéo a été manipulée par les policiers. C'est-à-dire qu'elle a été coupée comme par hasard en effaçant les violences qui étaient commises par les membres du groupe Civitas. Et donc, cette manipulation a condamné le fichier et il n'a pas été possible de le visionner pendant le procès. Bon, tant pis pour eux. Malgré cette faiblesse du dossier, on était quand même choqués d'apprendre que le procureur a osé demander de 2 mois de prison avec sursis, donc ça c'était le minimum, jusqu'à 2 ans de prison, dont un avec sursis, et 3 ans d'interdiction de manifester à Lyon. Donc c'est quand même du lourd, en sachant que les accusations étaient de plus en plus faibles. La juge aussi ne nous a pas épargné un traitement différent selon la classe, l'origine des inculpés, donc c'était pas très agréable non plus. Mais malgré tout cela, lorsque la sentence est tombée, donc nos camarades ont été presque entièrement relaxés. Il y a eu quelques petites condamnations, dont 300 euros d'amende pour violence. D'autres ont eu un mois de prison avec sursis pour refus de donner son ADN et refus de donner le code de déchiffrement de son portable. Il faut savoir aussi que, notamment les camarades qui étaient en prison, lorsqu'on est relaxé complètement, on ne peut rien demander par rapport à la prison, à l'incarcération qu'on a subie. Donc c'est aussi une manière pour les empêcher de demander des dommages. Voilà.
Précisons quand même une petite anecdote intéressante, c'est que le service de police qui a mené l'enquête dès le départ et qui s'est auto-saisi, qui a ensuite fait provoquer la saisie du parquet, c'est la BREC, la Brigade de répression des cambriolages, et que c'est quand même assez étonnant d'apprendre que c'est ce type de service qui est chargé de la répression d'un certain milieu antifascisme lyonnais, et que ça, c'est aussi des choses qu'on a appris le jour du procès. Et vraiment, on a découvert tout ce montage policier que tu as bien décrit et qui a abouti finalement à des peines très faibles. Donc, on peut considérer que c'est une victoire.
Tout à fait. Moi, je dirais qu'il y a même une triple victoire, parce que d'un côté, on a vu la solidarité qui a pu naître pendant les 6 semaines en attente du procès. De l'autre côté, une victoire médiatique, parce que la tribune a vraiment très bien marché. L'affaire, en général, a été relayée. Pas mal de gens en parlaient. Et aussi une victoire locale, qui est celle lyonnaise, parce qu'on a vu à quel point, lorsque on est ensemble, on peut créer de la force, et que cette force est capable de contraster la répression.
Bien, alors voilà, ça c'était la première phase de la répression, même s'il y en a eu d'autres, hein, on en avait beaucoup parlé, mais là on n'aura pas beaucoup le temps, mais Laurent Wauquiez qui a voulu supprimer des subventions au CCO pour le Lyon Antifa Fest, un festival antifasciste. Disons que l'acharnement, il vient de plusieurs biais politiques différents, et là il y en a eu un tout récent, dont on a aussi pas mal parlé, c'est cette tentative de dissolution de l'AGAL, le groupe antifasciste Lyon et environ, par le ministère de l'Intérieur, comme ils ont tenté de dissoudre le comité Action Palestine ou le collectif Palestine Vaincra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette tentative de dissolution qui émane directement du ministère de l'Intérieur ?
Oui, tout à fait. La première fois qu'on a entendu parler de dissolution, c'était en septembre 2021, donc au même moment où les camarades se faisaient incarcérer. Il y avait une vidéo qui tournait, qui était une sorte de vidéo teaser pour l'Antifa Fest qui a lieu tous les ans au mois de décembre. Et dans cette vidéo teaser, on entendait la foule lors d'un concert chanter « Tout le monde déteste la police ». Et donc c'est à ce moment-là que Laurent Wauquiez, le président de la région, a menacé de enlever les subventions à la salle où a lieu l'Antifa Fest d'habitude. Et c'est là qu'on a entendu parler de dissolution la première fois. Ensuite, il y a eu donc le 5 mars, c'était une grande journée de mobilisation contre Bayer Monsanto, qui était appelée par plusieurs collectifs. Et donc à ce moment-là, la GAL a relayé l'info par les réseaux sociaux. Et c'est là que Darmanin a pris la parole pour dire qu'il souhaitait dissoudre la GAL. Donc la notification de dissolution est arrivée le 17 mars, donc peu après cette journée du 5 mars. La dissolution, c'est quoi ? C'est donc une procédure qui est enclenchée directement par le ministre de l'Intérieur. Donc il faut savoir que c'est en dehors du système judiciaire qu'elle a lieu. Et c'est une disposition légale qui est née en 1936 pour empêcher les groupes d'extrême droite de prendre le pouvoir. Et ensuite, elle a été utilisée... ça retrace un peu l'histoire de la France contre des collectifs anticoloniaux, indépendantistes, puis contre des groupes d'extrême gauche dans les années 60, les Corses. Mais là, il faut savoir que Macron est le président à avoir eu recours à cette procédure. Donc c'est sûr que ça s'accélère, le recours à cette procédure de dissolution. Donc elle est basée entièrement sur des renseignements, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est en dehors du système judiciaire. Et les critères sur lesquels se base la dissolution sont assez flous déjà, c'est l'incitation à la haine, l'organisation de milices armées. Là, par contre, avec la loi contre le séparatisme, il y a du nouveau. C'est-à-dire qu'on a appris qu'avec la dissolution contre la GAL, on leur reprochait aussi l'incitation à commettre des violences contre des biens et des personnes, ce qui est extrêmement large. Donc ça, c'est nouveau.
Oui, alors parce que justement, parlons-en un peu de la loi séparatisme. Officiellement, elle n'était pas censée être utilisée pour dissoudre des groupes pro-palestiniens ou des groupes antifascistes français. Sur quoi ils se sont basés ? Comment ça se fait que le ministère de l'Intérieur s'est basé sur ces articles-là ? Est-ce que vous en savez un peu plus depuis le Conseil d'État ?
Justement, ils ont utilisé cette loi pour reprocher à la GAL des simples appels à des manifestations qu'ils n'organisaient même pas, juste le fait de les avoir relayés sur les réseaux sociaux, l'emploi de certains formules comme ACAB, feu aux prisons. Donc le dossier était... tout ce qui a été reçu par les avocats était entièrement basé là-dessus. Et juste, il faut savoir qu'après, une fois que tu es notifié donc, de cette dissolution, tu as 15 jours pour formuler des observations. Et suite à ces 15 jours, la dissolution est actée. Et la seule chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'est donc saisir, comme tu disais, le Conseil d'État. C'est là qu'on en a appris plus. Mais je voulais juste rebondir sur le fait que aller au Conseil d'État, c'est très, très cher. Donc, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pour cette raison aussi que plusieurs collectifs, comme tu disais, Palestine vaincra, bon, c'est pas leur cas, mais on a aussi le cas de collectifs contre l'islamophobie. Souvent, il n'y a pas de suite. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté, mais c'est parce que c'est... Il faut,
du pognon. Du pognon pour y aller, ouais. Des milliers d'euros, beaucoup de milliers d'euros. Et donc, au final, sur ce Conseil d'État, quelle a été la décision ?
Bah, la décision a été de suspendre la dissolution, puisqu'on a acté que ça remettait en discussion des libertés fondamentales. Et donc là, par contre, ce n'est pas fini, puisque cette suspension, on a encore entre 18 et 24 mois. Ensuite, il y aura un nouveau passage devant le Conseil d'État. Bon, normalement, puisqu'elle a déjà été suspendue, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas entre 18 ou 24 mois. On ne connaît pas encore la date, mais voilà.
Eh bien, écoute, je crois qu'on arrive un peu au bout. En tout cas, ce que ça prouve, ces deux affaires, c'est que face à la répression, quand on s'organise, eh bien, la solidarité, elle peut fonctionner. C'est pas parce que la police, c'est pas parce que le parquet, c'est pas parce que le ministère de l'Intérieur ont des initiatives, des offensives répressives contre nos milieux, contre nous, qu'il faut se laisser faire. La preuve en est, là, il y a eu deux victoires, donc... Ne nous laissons pas faire, la solidarité est notre arme. Merci de nous avoir raconté à nouveau tout ça sur les Canu Info et sur Radio Canu.
Merci à vous.
Des radios en direct de la place Satonnet, 102.2 FM en direct et en stéréo, et on continue de discuter d'anti-répression puisqu'on a l'honneur et l'avantage de recevoir deux membres du collectif Flagrant Déni. Et on va tout de suite commencer par une question bête. C'est quoi Flagrant Déni ?
Eh bien, pour comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on fait, je pense qu'il faut partir déjà d'où l'on vient. Alors, c'est un collectif qui s'est fondé dans un moment politique très particulier, à savoir à partir de fin 2018, début 2019, lors du mouvement des Gilets jaunes, dans un moment où il y a eu des personnes qui ont été tuées par la police, mutilées, de nombreux blessés. Et donc, tout un collectif d'organisations diverses a décidé de se réunir. C'était des syndicats de salariés, des assos féministes, des assos de défense des libertés individuelles. Et à l'époque, s'est créé un comité de liaison contre les violences policières, où l'idée, c'était de faire du lien autour de cette question-là. Et puis est venu, après les mouvements des Gilets jaunes, les manifs contre la réforme Macron de la loi des retraites. Et à ce moment-là, on a décidé de faire beaucoup d'observations de manifs. Donc on observait la police en manifestation. Et ensuite est venu le confinement et donc plus de manifs. Et du coup, on a changé notre mode opératoire. On a fait, en plus du soutien aux victimes qu'on faisait auparavant, on s'est mis progressivement de plus en plus à enquêter sur la police. C'est-à-dire qu'on se posait très concrètement la question, mais que fait la police ? Parce que personne enquête sur la police. Personne ne se demande comment est-ce que la police enquête sur nous. On s'est on a mis le nez dans le fonctionnement de l'institution policière et donc aussi de l'institution judiciaire pour démontrer que les enquêtes que menait la police étaient tout à fait partiales, qu'il n'y avait aucune garantie d'indépendance dans ce qu'elle faisait. Tout un tas de choses sur le fonctionnement de la police.
D'accord, et donc vous faites ces enquêtes, vous collectez des données, vous les analysez, et derrière, ce que vous faites souvent, c'est que vous communiquez, vous publiez des choses.
Tout à fait, donc il y a tout un volet qui est très important, c'est le volet de publicisation. Parce que souvent, la presse paresseuse, la presse locale, va simplement reprendre le communiqué de presse de la préfecture et le prendre pour argent comptant. Et donc, il y a tout un enjeu à construire un contre-discours sur ce qui s'est réellement passé. Fournir des informations et faire un travail médiatique que les médias mainstream ne font pas.
D'accord. Et là, vous venez récemment de publier votre dernier papier, ou votre dernière note, hein, puisque c'est quand même essentiellement numérique, qui porte sur deux choses. D'abord, je crois que vous avez essayé de faire un état des lieux de ce qu'on pourrait qualifier de montée des violences policières sous le quinquennat Macron. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une montée? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Comment on fait?
En l'occurrence, le point de départ, c'était effectivement de se saisir de la fin de la campagne présidentielle et du début des élections législatives pour faire un état des lieux de ce que, par ailleurs, on peut déjà un peu pressentir, c'est-à-dire qu'est devenue la violence policière sous Macron au regard de ce qu'on pourrait comparer sous les gouvernements du mandat Hollande ou sous les gouvernements du mandat Sarkozy. Donc de ce point de vue-là, en fait, on s'est simplement contenté d'aller récupérer des données qui avaient pu être publiées par d'autres journaux, puisque même Le Monde, parfois, il lui arrive de sortir un papier plus ou moins intéressant donc, en l'occurrence donc, sur le recours aux armes individuelles de la part des fonctionnaires de police. Et puis Bastamag avait aussi sorti une enquête il y a quelques mois donc, sur l'évolution des morts entre les mains de la police sur plusieurs décennies. Et puis on a aussi récupéré toute une série de données qui sont en réalité en public hein, et qui permettent de notamment de faire un état des lieux sur le recours au LBD, puisque donc c'est, pour rappel, hein, c'est une arme dite non létale dont l'usage a été engagé sous Chirac et qui s'est progressivement étendu sous Sarko avant d'atteindre un climax, ou en tout cas pour le moment un climax provisoire sous le premier quinquennat Macron. Donc, en l'occurrence, en compilant en fait, ces trois indicateurs, donc en gros les morts, les tirs d'armes individuelles et les tirs de LBD, on peut quand même constater donc une première chose qui est que effectivement, quel que soit l'indicateur retenu, la violence augmente de façon radicale, enfin la violence policière augmente de façon radicale sous le quinquennat Macron, puisque s'agissant des tirs individuels, on en est à 250 par an en moyenne sous Hollande et on en est à 320 sous Macron. S'agissant des décès, donc ce que rappelait Basta, hein, donc on en était à 16 en moyenne par an sous Sarkozy. On a doublé, en fait, sous Macron, fervent défenseur de la démocratie contre l'illibéralisme, on s'en souvient. Et puis, donc, s'agissant du LBD, donc, on était à 2000 en moyenne, 2000 tirs en moyenne par an sous Sarko. Le double sous Hollande, ce qui, en soi, est une comparaison dont il faut se souvenir aussi. Et le triple, donc si on se réfère toujours à Sarko, donc 2000 sous Sarko, 6000, que dis-je en fait, c'est pas 6000, c'est 11 000, 11 000 par an sous Macron, donc évidemment avec les gilets jaunes, mais pas que, puisque en fait un des trucs dont on s'est rendu compte en comparant tous ces chiffres-là, c'est que par exemple, il y a eu plus de tirs de LBD en 2020, dont on se souvient pour être une année confinée, donc pas particulièrement animée par les mobilisations sociales de grande ampleur. Il y a eu plus de tirs donc en 2020 qu'en 2016, donc sous Hollande, pendant la mobilisation contre la loi travail. Donc ça dit quelque chose en fait sur le niveau. Ça dit deux choses. Donc la première chose, c'est la banalisation à un niveau extrêmement élevé du recours à la violence policière. Et la deuxième chose que ça dit également, c'est que contrairement à l'argument notamment mobilisé par les syndicats policiers, le recours de plus en plus massif au LBD n'a pas du tout interdit un recours accru aux armes individuelles des policiers, et n'a rien fait non plus pour endiguer le nombre de morts entre les mains de la police chaque année. Donc en gros, l'arsenal des violences policières se superpose et s'accumule et s'entretient davantage qu'il ne se neutralise. Et donc c'est ça, c'est ça qu'on a cherché un petit peu à souligner dans le rapport.
Donc on a plutôt une augmentation, on a une multiplication des moyens de la violence en fait, finalement. Et donc j'imagine que mécaniquement, on a une augmentation du nombre de victimes, très probablement. Qu'est-ce qu'on en sait de ces victimes ? Est-ce qu'on a des informations sur qui elles sont, un petit peu, qui sont comptabilisées par peut-être des données publiques, peut-être des médias ? Et est-ce qu'on a aussi une deuxième chose, sans doute, c'est comment elles essaient de réagir, comment elles essaient de se défendre, si elles le font, et qu'est-ce que ça donne éventuellement d'essayer de combattre la violence policière quand on en a été victime ?
Alors je crois que là, tu as posé à peu près 3 ou 4 questions, et en fait, sur chacune de ces questions, il n'existe absolument aucune réponse. Pour cette raison qui est que, en fait, contrairement à d'autres États, en fait, la France a fait le choix de ne publier aucune information publique qui permette de faire un état des lieux sur ce qu'on pourrait appeler, donc avec les catégories un peu officielles, mais le contentieux police-population. C'est-à-dire qu'on n'a aucun chiffre, au moins depuis 2016 et 2017, qui permette de prendre la mesure du nombre de plaintes déposées par des victimes de violences policières contre la police. Sachant par ailleurs, et c'est une parenthèse, mais que nous, dans le cadre d'autres activités qu'on avait conduites avec Flagrant Déni, on avait déjà montré à quel point en fait toute une série de victimes de violences policières refusaient de porter plainte, pour toute une série de raisons évidemment parfaitement entendables, mais qui, de fait, suggère que ce simple chiffre-là qu'on ne connaît pas, il est sans doute très inférieur en fait, à la réalité donc, des violences policières. En fait, le seul chiffre dont on dispose et qui nous sert un petit peu d'étalon, il a été publié dans un rapport, enfin, plus exactement, il a été écrit dans un rapport qui n'a pas été publié en 2016 et qui indique que ce contentieux, il était à hauteur de 1400 plaintes chaque année. Donc on était en 2016 probablement avec des chiffres de 2015 de mémoire, donc c'est-à-dire avant la loi travail, et on sait ce qu'il est advenu depuis. Donc en gros, le contentieux police-population, il est probablement énorme. Simplement, on n'a rien là-dessus. L'ONU a enjoint le gouvernement français à l'époque de publier des chiffres. C'était en 2017, c'est la dernière fois qu'on a eu des chiffres, et ces chiffres se contentaient, je crois, mais de reproduire en gros les chiffres qui étaient ceux de l'IGPN. Or, on y reviendra peut-être dans un instant, mais les chiffres de l'IGPN ne disent à peu près rien de la réalité de la conflictualité entre les forces de l'ordre, la police du quotidien aussi, et le reste de la population.
Bah, tu vas peut-être nous expliquer ça, parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait les rapports de l'IGPN, et qu'à travers les rapports de l'IGPN, on puisse comprendre d'une part qui a attaqué la police, et puis comment l'IGPN l'a traité, donc ce n'est pas le cas.
En l'occurrence, c'est vrai que nous, ce qui nous a un petit peu interpellé, sans qu'on s'en rende compte immédiatement, mais c'est que on a effectivement coutume, au moins depuis la loi travail, puis depuis l'affaire Steve Canisso, je n'ai pas envie d'écorcher son nom, donc, l'affaire Steve, disons.
Steve qui a été tué par la police à Nantes lors de la fête de la musique 2020.
2019, je crois. Donc en gros, on a effectivement donc depuis quelques années, disons, une mise à l'index public critique bienvenue de ce que fait l'IGPN. Sauf que l'IGPN, quand on lit un petit peu ses rapports, ne cesse de répéter année après année quelque chose dont il faut vraiment prendre la mesure, c'est-à-dire que l'IGPN ne prend en charge que 10% des affaires liées à des violences policières. Donc, c'est-à-dire suite à, en l'occurrence et le plus généralement, des plaintes pour violences policières. Donc, que deviennent les 90% restants ?
Oui, qui est-ce qui traite ça, quoi ?
Voilà, qui est-ce qui traite ça ? Et ça, en fait, pendant... nous, on s'est un petit peu lancé en 2019. On a commencé donc à avancer pendant 2 ans. Et on a mis du temps, en fait, à comprendre pourquoi, en fait, l'IGPN n'était pas saisie de toutes les affaires de violences policières à Lyon, par exemple. Et quel était cet autre service qui s'en saisissait ? Est-ce que cet autre service était une anomalie lyonnaise ou une spécificité exotique locale ? Ou est-ce que c'était quelque chose qui disait un truc plus fondamental en fait, sur la manière dont la déontologie policière française cherchait ou non à s'exercer ? En réalité, on a fini par retrouver une circulaire qui n'est pas facile à trouver parce qu'en fait, la circulaire ne couvre pas immédiatement ce domaine-là, donc la déontologie policière. C'est au contraire une circulaire qui explique comment bien maintenir l'ordre en manifestation après que le 2016 et la loi travail aient visiblement donc indexé le niveau de violence en manifestation à un niveau supérieur. En réalité, donc, ce que dit cette circulaire, c'est que donc, effectivement, l'IGPN ne peut être saisi que dans un cas très particulier, c'est-à-dire quand la violence policière en question serait particulièrement grave et ou quand elle serait particulièrement médiatisée.
Okay, c'est écrit comme ça, quoi.
C'est à peu près écrit comme ça. Ça c'est le premier enseignement, c'est-à-dire qu'en fait l'IGPN ne se saisit des affaires en général que lorsque les médias s'en saisissent, donc ce qui renvoie tout de suite au fait, enfin au débat qui avait eu lieu pendant la LPR sur le fait que on puisse ou non filmer les policiers en train de faire ce qu'ils font, etc., etc., puisqu'en fait s'il n'y a pas de médiatisation possible, l'IGPN n'est pas saisie. Or, l'IGPN est un petit peu notre allié circonstancié, puisqu'en fait l'IGPN fait bien mieux son travail, quoi qu'il fasse, que le reste des services à qui il échoue donc le gros du contentieux police-population.
C'est dire.
Donc, à Lyon, ce qu'on appelle donc dans la circulaire les services déontologie, donc ça s'appelle le pôle déontologie, hein, il couvre par ailleurs d'autres attributions complètement extérieur en fait à ces questions déontologiques. En gros, c'est une espèce de résidu institutionnel qu'on confie à des gens qui ont une autorité hiérarchique très faible, hein, au regard de ce qu'on pourrait observer dans le cadre de l'IGPN à Lyon. Donc, par exemple, pour dire les choses un peu clairement, l'IGPN à Lyon, c'est un commissaire divisionnaire qui a sous ses ordres des officiers qui enquêtent. Le service déontologique qui s'occupe du reste, en fait, en l'occurrence, c'est une commandante, donc un grade bien moindre, qui a sous ses ordres des brigadiers ou des brigadiers-chefs. Donc, en gros, le bas de la hiérarchie et donc du commandement policier. Donc, autant dire que de ce point de vue-là, les garanties d'indépendance sont quand même sujettes à caution, dans la mesure où, par ailleurs, il faut aussi le rappeler, elles sont sujettes à caution dans le cadre de l'IGPN. Et par ailleurs, et plus fondamentalement, en fait, ce service d'ontologie pose un problème absolument incroyable qui est qu'en fait, il est directement rattaché à la tutelle du directeur départemental de la sécurité publique. Donc, pour le dire autrement, si on reproche à l'IGPN de ne pas être indépendante, qu'en est-il de ces services déontologiques qui traitent de 90% des plaintes pour violences policières, alors même qu'ils ils exercent directement sous la tutelle du chef de la police lyonnaise.
Mais on entend parler des fois des enquêtes que font ces gens-là. Elles donnent des fois quelque chose.
Alors, nous, on a fini par récupérer toute une série de dossiers. Alors, je le précise si jamais on nous écoute, hein, mais je le rappelle à nouveau, dans le cadre d'une procédure qui est tout à fait légale et qui nous permet d'obtenir ces dossiers et qui fait qu'on n'a jamais violé aucune procédure judiciaire, mais qui nous permettent en fait de comparer ce que fait l'IGPN, par exemple, à titre indicatif, donc sans dire évidemment que l'IGPN fait tout bien comme il faut, hein, mais qui permettent de comparer le travail de l'IGPN et le travail service déontologie. En l'occurrence, que montre cette comparaison? Donc, en fait, on a 2x5 dossiers. Donc ça permet à peu près d'avoir un truc, à défaut d'être exhaustif, qui dit à peu près quelque chose de symétrique. Bon, en l'occurrence, l'IGPN a procédé à 7 fois plus d'auditions en moyenne que le service déontologie, et surtout donc sur 5 dossiers, et ça c'est quand même un petit peu effarant, hein. Sur ces 5 dossiers, le service déontologie n'a auditionné qu'un seul policier. Donc c'est-à-dire qu'on auditionne en moyenne 0,2 flics dans le cadre de procédures qui incriminent a priori des policiers. Donc ça dit des choses en fait sur un truc que par ailleurs la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, avait pu notifier. C'est-à-dire que ce qu'enjoignait la CEDH de faire, c'est que s'il doit être conduite une enquête dans le cadre de violences policières, ou en tout cas pour mauvais traitement, pour reprendre ces termes, ces enquêtes doivent être dites approfondies, indépendantes, effectives. Dans le cas du service déontologie, on est en mesure de pouvoir affirmer que ces enquêtes ne sont ni approfondies, ni indépendantes, ni effectives. Par ailleurs, et donc c'est aussi quelque chose qu'on a eu l'occasion de documenter à un moment donné, le responsable hiérarchique du service déontologie, dans le cadre d'une affaire pour violence policière dans le cadre du mouvement retraite en 2019, s'est permis le luxe de mentir devant l'IGPN, alors qu'il s'agit du déontologue en chef, hein, de la police lyonnaise. Donc le déontologue en chef de la police lyonnaise a menti devant l'IGPN, et depuis, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il a été promu.
Il a été promu.
Donc, étonnant.
Voilà, tu as 10 sur 10 au blind test. Donc effectivement, ce qui est problématique avec ce service déontologie, c'est qu'on ne sait rien de ce qu'il fait, et qu'à chaque fois qu'on sait quelque chose de ce qu'il fait, on a de quoi nourrir toutes les inquiétudes sur les pratiques déontologiques de la police.
Du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que la plupart des violences policières étant commises dans les quartiers populaires et étant systématiquement non médiatisées, qu'elles tombent, si elles doivent tomber quelque part, dans ce service qui est en fait une coquille vide et qui protège systématiquement les bavures policières, quelles qu'elles soient.
En gros, c'est effectivement un des trucs sur lesquels on attire l'attention dans le rapport, c'est qu'en gros, si la condition pour que l'IGPN soit saisie, c'est que l'affaire soit médiatisée, il y a fort à parier que la plupart des affaires qui interviennent dans les banlieues de Lyon, en particulier donc à Vaux-en-Velin, où on a été sollicité sur toute une série d'affaires, ces affaires-là échouent à des gens qui, en réalité, ne font pas d'enquête, il faut le redire, et qui, du coup, ne s'appuient exclusivement que sur les pièces de procédure qui sont celles des flics, quand les flics décident de porter plainte contre la personne qui était victime de violences policières. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement la double iniquité de cette distribution des rôles, hein, c'est que les quartiers populaires sont à nouveau les grands perdants de cette politique institutionnelle.
Donc là, vous arrivez quand même à montrer un certain nombre de choses. On voit, comme vous l'avez dit précédemment, que vous faites de l'enquête, que vous essayez de vous renseigner précisément. J'ai bien retenu le fait que tout ce que vous faites est évidemment dans le cadre de la légalité. Ça semble tout naturel, comme toutes les actions qui sont promues sur Radio Canu. Mais par ailleurs, comment vous êtes reçu ? Qu'est-ce que les policiers pensent de vous ? Est-ce qu'ils s'intéressent à votre travail ? Est-ce que vous enquêtez sur eux ? Est-ce qu'eux enquêtent sur vous ?
Parfois, les polices nous font des petites blagues. Alors, on a une affaire, par exemple, qui commence le 10 décembre 2019, quand un jeune homme sur la place Bellecour est agressé par une meute de policiers et le blesse au visage. On reconnaît un des policiers agresseurs 2 mois plus tard en manifestation, et naturellement, ce policier a été promu, c'est-à-dire qu'il a été en tête de la BAC avec un LBD. On cherche à publier cette affaire en montrant qu'on a reconnu ce policier. Et comme tout travail journalistique, donc on appelle la police, la préfecture et le tribunal pour demander où on est l'enquête sur ce policier et des explications. Et juste après ces appels, on reçoit quelques emails malveillants et quelques appels malveillants. Donc on décide naturellement, comme on a une grande confiance dans la police républicaine, de porter plainte. Et qu'est-ce qui va advenir de notre plainte ? Donc le tribunal de Lyon est saisi en juillet 2020 et il va faire ce qu'on appelle un tour de France à la plainte. C'est-à-dire qu'il va l'envoyer à Paris parce que théoriquement, ça pourrait être la direction interministérielle du numérique qui est compétente pour donner la provenance de l'adresse IP qu'on savait à l'époque gouvernementale. Et le tribunal de Paris dit en fait, ah ben non, on va renvoyer la plainte à Lyon, parce que vous pouvez tout à fait juger cette affaire à Lyon. Et donc, la plainte va ensuite dormir 7 ou 8 mois sur le bureau du procureur, jusqu'à ce que les preuves permettant d'identifier l'ordinateur gouvernemental disparaissent au bout d'un an, jusqu'à ce que ces preuves-là soient effacées. Et juste après, comme par hasard, là, l'enquête va redémarrer. On saura au final non pas le nom du policier ou du fonctionnaire qui a organisé ces appels malveillants, mais seulement on saura que c'est une adresse IP du ministère de l'Intérieur.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous faites de cette information ? Enfin, à part le fait que potentiellement on essaie de vous mettre de la pression de l'intérieur de l'institution que vous enquêtez ?
Bah, en gros, on se pose encore la question des différentes voies de recours dont on dispose pour essayer de faire un tout petit peu la lumière sur cette histoire, puisque du coup, effectivement, c'est visiblement une intention de nuire hein, qui a été dégagée au travers. Alors en soi, c'est un peu burlesque, hein, c'est juste qu'on avait reçu des milliards de spams de sites américains sur notre boîte Rise Up, et puis on avait reçu toute une série de, je sais plus, on rigolait beaucoup sur Cerise de Groupama qui ne cessait de rappeler le téléphone portable du collectif.
Donc en fait, ils vous avaient inscrit.
Voilà, ils nous avaient inscrit. En gros, c'est probablement, encore une fois, on n'a pas les preuves puisque l'enquête n'a pu avoir lieu du fait de l'indolence du procureur, mais c'était visiblement quelqu'un qui avait voulu un petit peu s'éclater dans son coin de façon un petit peu à entraver notre travail. En l'occurrence, bon. On a aussi perçu ça comme une manœuvre d'intimidation hein, qui consistait aussi à dire un peu clairement que si d'aventure on s'intéressait à eux s'intéresseraient aussi à nous. Donc, Donc ça, de toute façon, c'est probablement un petit peu le deal tacite qui existe entre eux et nous. Eux, ce qu'ils font, ça nous intéresse. Et donc, du coup, évidemment, donc depuis on ne fait que mobiliser toute notre imagination juridique plus ou moins créative pour essayer de pousser cette procédure à son terme. Et il est bien évident que tant qu'on aura l'occasion de ne pas les lâcher, on ira jusqu'au bout.
Et du coup, je peux poser une question supplémentaire. C'est vous faites ce travail d'enquête ici à Lyon avec cet objectif de mettre en lumière des choses souvent qu'on pressent un peu, mais en fait, c'est toujours plus intéressant d'en avoir la preuve et de pouvoir accréditer les choses par des faits. Est-ce que, une fois que vous publiez vos notes, est-ce que la presse plus ou moins paresseuse, est-ce qu'elle s'intéresse un peu à ce sujet ou ils en ont toujours pas grand-chose à cirer tant que c'est pas un communiqué de la préfecture ?
En l'occurrence, on a aujourd'hui tout un éventail en fait de types de réception de notre travail, c'est-à-dire que évidemment donc le Progrès n'a jamais relayé quoi que ce soit de ce qu'on avait pu faire. On a eu l'occasion de se fâcher avec France 3, mais aussi en fait de faire du boulot à peu près correct avec France 3 plus récemment. Le constat est sans doute, pour aller vite, à peu près le même s'agissant de rue 89. On a d'autres contacts un petit peu plus solide avec des journalistes nationaux spécialistes de ces questions. Et donc, en l'occurrence, et donc pour les personnes que ça pourrait intéresser, hein, mais le Média vient de publier, donc la semaine dernière de mémoire, une vidéo qui relaie enfin en fait ce qu'on a porté quand même pendant un an, à savoir que donc un très haut gradé, donc en l'occurrence le numéro 3 de la DDSP lyonnaise, avait menti dans le cadre d'une procédure devant l'IGPN et que tout ceci méritait quand même un tout petit peu de lumière et à minima autre chose que des salam alek et des promotions.
Eh bien, merci beaucoup, Flagrant Déni. On va vous demander une dernière petite chose. Évidemment, où est-ce qu'on retrouve votre production ? Si des gens se sentent une âme de reporter et d'enquêteur sur la police, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver ? Voilà, quels sont vos contacts ?
On a un super site internet fait par un super graphiste qui s'appelle www.flagrant-deni.fr et on a aussi un compte Twitter.
Et c'est vrai que le site est particulièrement beau. Il est désormais 19h43. On remercie à nouveau nos intervenants qui sont venus nous parler de répression, d'anti-répression et de ce que trafique la police. On marque une petite pause musicale sur Radio Canu. On revient ensuite avec un plateau sur l'anti-impérialisme.
L'angle mort, le vrai bug, le fort accord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image, le plus parfait des parfaits camouflage, le trompe-l'œil épique, l'exacte réplique, au carbone 14, certifié authentique, mon 20 mesures cathartique a pris le maquis acoustique, ici la périphérie est au centre, et des territoires libéré s'invente, au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les cleps au train, j'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Au point d'impact des colères,
à contre-courant ouvert
et contre redoutent les muselières.
À la périphérie des gens,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant ouvert,
et contre toutes les muselières.
À la périphérie des gens,
au cœur des poudrières. Si je sors le soir et promène mon ulcère en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir, si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende contrôle d'identité, bonsoir. Non, je ne vais nulle part, et puis je n'attends personne. Alors à quoi on me compare, et de quoi on me soupçonne? Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent, quand je ne fais que méditer, adossé à une colonne? Je ne pose aucun problème, donc je pense et suppose que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause. Souvent vue comme mauvaise, lors des bavures commises, et sur qui pèse en temps de crise, de grandes mises en parenthèse. Je n'y peux pas grand chose, si nous ne sommes pas en phase. Voici mes papiers, relevez mon adresse et mon place, et arrêtez de me palper à la moindre occasion, car à la base ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche. Au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant ouvert,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières.
Au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant ouvert,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières.
Au départ des courts-circuits,
au croisement des
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant ouvert,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des champs,
au cœur des poudrières.